Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, l'inflation ronge le pouvoir d'achat, les marchés ont l'air un peu faiblards. Camilla est devenue reine consort, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end, et c'est une émission exceptionnelle, parce qu'on va vous donner, ouais, ça y est, c'est décidé, on a essayé de faire ça chaque semaine, toutes les clés pour comprendre l'économie, la finance et les placements. Mais vous le savez, pour faire ça, pour faire une émission exceptionnelle, c'est pas d'un animateur qu'on a besoin, c'est d'invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Mais si, rappelez-vous, vous le connaissez, rappelez-vous la guerre du feu, la scène de la rivière. Ben oui, c'est lui, Alain Pitou, senior advisor ESG, l'homme qui a quand même fait entrer l'écologie dans C'est votre argent.
Ça n'a pas été fait.
Vous resterez dans la mémoire du peuple comme l'homme qui a fait rentrer. Et c'est pas facile, et elle est bien rentrée.
C'est, je trouve, oui. Par
rapport franchement, on en parle.
Oui, oui, puis même
et puis il y a d'autres invités.
Oui, puis même par rapport à vous, il y a quelques années, qui étaient totalement adverse à ça.
Je
sens parfois, alors dans les émissions où je ne suis pas, je sens que vous êtes presque à en parler positivement.
J'irai pas jusque là parce que mais je considère, je le fais rentrer maintenant dans ma grille d'analyse qui est nouveau et c'est un peu grâce à vous. C'est un gentleman économiste, le gendre idéal de BFM, on le sait, il a une vision claire et éclairante, c'est Wilfried Galland. Alors lui, il est directeur. Bravo déjà, ça c'est déjà énorme.
C'est déjà pas mal.
Et en plus, il est stratégiste chez Montpensier Finance.
Ah, les deux ensemble, c'est quand même le combo gagnant, quoi.
Ouais.
C'est trois avec Montpensier, bien sûr.
Bah oui, évidemment. Il ne faut pas les oublier.
Jamais.
C'est un spécialiste reconnu des valeurs moyennes. On l'entend un peu moins quand le marché baisse, mais il a pourtant beaucoup à dire. C'est pour ça qu'on est content de l'avoir aujourd'hui. Éric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora, ça va?
Je crois que j'ai monté en gamme parce que franchement, sur les small limits, c'est la déprime absolue en ce moment.
Bon, allez, on va faire simple. En géopolitique, il y a lui. Et puis il y a les autres. Moi, c'est mon gourou et je suis toujours fan. Benaouda Abdelhaim, merci d'être là.
Merci.
Toujours un plaisir de vous recevoir.
Merci Marc.
Allez, on commence par la première rubrique, le mot de la semaine. Et le mot de la semaine, c'est l'Europe. Bon, vous l'avez vu, la Commission européenne a annoncé ses mesures face à la crise de l'énergie, taxation des superprofits de l'électricité et du pétrole, objectif de baisse de la consommation. Pas de plafond pour le prix du gaz russe. Hein. Face à la guerre en Ukraine, face à la Russie, face à la Chine, on a vu cette rencontre cette semaine très importante entre Xi Jinping et Poutine qui s'est rapproché donc de la Russie. Comment peut-on dire que l'Europe s'en sort, Ben Aouda?
Difficilement. Et ce qui est marquant, c'est la manière dont l'Europe est d'une certaine façon en train d'inspirer presque la pitié. Je vais raconter une petite...
Vous êtes dur, là.
Non, mais je vais vous raconter la pitié de la part des Américains.
Ouais, j'ai compris.
Je vais vous raconter une petite interview que j'ai vue, enfin une grande même, sur une chaîne d'information économique américaine, du PDG de Chénieret, qui est, vous savez, le grand du GNL américain, et l'intervieweur lui dit, pouvez-vous nous dire, avec votre GNL, comment vous chauffez les foyers allemands? Et le PDG de Chénieret dit, c'est une de nos cargaisons, c'est le chauffage pour 1 million d'Allemands par mois. Et il fallait voir l'intervieweur presque le saluer tellement c'était merveilleux d'aller sauver comme ça. Il a employé le terme de sauver les Européens. Et de ce point de vue-là, on sent une forme d'emprisonnement de la logique européenne. Encore une fois, ça vient des États-Unis. Sharif Souki, qui est le pionnier du GNL au Texas, qui a clairement fait savoir que aux Européens, avant cette prise de décision à la Commission européenne, qu'il est hors de question de caper, de limiter les prix du GNL, et que si c'était le cas, il y en a d'autres qui paieront le prix, c'est-à-dire les Chinois, et que finalement les Européens n'ont qu'à s'en prendre à leurs propres défauts, a-t-il dit, de réflexion stratégique. Et de ce point de vue-là, on sent jusqu'ici, en tout état de cause, une Europe qui a subi un mouvement plutôt qu'elle l'a initié. Alors, peut-être que les bouleversements en cours, notamment en Allemagne, vont modifier cette approche extérieure vis-à-vis des...
Moi, c'est ça que je ressens. Oui. J'essaye d'être positif. Et je me dis, j'ai pas l'impression qu'il se passe une accélération.
Tout à fait.
Notamment, vous avez raison, pour moi, venant de l'Allemagne.
Et après, l'Allemagne est aussi confrontée à ses propres contradictions. Oui. Il y a un débat au sein de l'industrie et des milieux économiques allemands où vous avez peut-être entendu le PDG de la Deutsche Bank dire qu'il faut opérer une refonte fondamentale de la relation avec la Chine comme on est en train de l'opérer vis-à-vis de l'énergie russe. Mais tout de suite... Ou en parallèle, vous avez le président de la chambre de commerce, la DIHK, la chambre de commerce d'industrie allemande, qui lui dit faites ça et vous mettrez en péril l'ensemble du modèle économique allemand qui est attaqué actuellement par les perturbations des chaînes d'approvisionnement, par l'inflation sur les matières premières et sur les produits intermédiaires. En clair, ils n'ont pas encore réglé eux-mêmes leurs contradictions, leurs modèles.
Mais le sujet est sur la table.
Tout à fait.
C'est
sur
ça
la
que
table.
Je trouve fascinant avec ce qui est en train de se passer, c'est qu'avant il y avait tous ces sujets-là, on les connaissait tous. On en parlait ici ou ailleurs, entre spécialistes, et puis on n'en parlait pas dans le public. Et là, maintenant, les sujets sont sur la table.
C'est-à-dire oui.
L'indépendance énergétique, l'indépendance économique, ou
fait.
La dépendance économique.
Et puis, la projection en tant que puissance oui. militaire, ce qui est fou. Ce qui est, vous entendez Olaf Scholz, la ministre de la Défense.
L'Allemagne voulant prendre le leadership oui. du réarmement de l'Europe, c'est quand même...
Alors, comme souvent dans ces affaires-là, lorsque c'est du sérieux, il faut aussi écouter les militaires. Et cette semaine, il y a le chef d'état-major de la Bundeswehr qui a donné une interview à Focus, le magazine allemand, et qui invite à la prudence et à ne pas aller plus vite qu'en besogne, et à bien réfléchir à ce que signifie cette idée de dissuasion allemande par rapport à capacité actuelle, pas celle dans 5 ans, pas celle dans 10 ans. Et de ce point de vue-là, il y a une forme de prudence des militaires par rapport aux politiques.
Oui, parce qu'il faut du temps.
Parfaitement.
Mais le sujet sur la table,
oui,
et
oui.
les projets sont engagés. Est-ce que vous vous dites, Alain Pitou, vous qui prenez un peu l'accélération de la transition écologique ou climatique un peu partout, dans vos tweets partout, est-ce que vous vous dites, tiens ça, bon ok c'est une crise, c'est dommage, mais c'est une opportunité fantastique pour rabattre toutes les cartes?
Clairement. Il y a des aspects stratégiques, effectivement, bon je reviens pas dessus. Il y a un point qui me paraît important, c'est de montrer aussi qu'aucun État européen n'aurait pu présenter des solutions supérieures à ce qu'a fait l'Europe. Ce qui est quand même aussi un élément très important pour la suite, c'est-à-dire que Italiens, Espagnols, même Allemands, Français et autres ne peuvent pas imaginer avoir été seuls dans cette crise. Donc ça aussi, en termes de construction européenne, c'est un premier point. Deuxième point, on s'aperçoit que ce sont des dictatures hein, ou des États très, très contrôlés qui contrôlent l'énergie, enfin les approvisionnements en énergie. Donc l'Europe ne peut pas se retrouver naïve face à ces gens-là. Donc ça aussi, c'est un énorme changement. C'est-à-dire que pas mal de choses vont être reprises en main par l'Europe et par les États. Ce qui est quand même là aussi quelque chose de très nouveau par rapport à ce qu'on vivait avant, hein, qui était quand même un laisser-faire économique. Et l'autre, le dernier point que je voulais signaler aussi, c'est que on a réglé beaucoup de problèmes par les prix, c'est-à-dire qu'on s'est dit pendant très longtemps les prix vont monter et puis ça s'ajuste, etc. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un problème d'approvisionnement et ça, c'est extrêmement problématique. Donc, on a à court terme ce problème.
Il y a un problème d'approvisionnement, mais l'effet prix a un effet quand même.
Oui, oui, bien sûr, mais on s'aperçoit qu'il va falloir de la solidarité européenne pour régler, pour passer cette période et après ne plus être naïf pour la suite, pour être capable de gérer ce manque d'approvisionnement qu'on va avoir.
La patronne de la Commission européenne, elle fait un bon job.
Elle fait dans le cadre dans lequel elle est. Certains ont pu estimer que prononcer un discours dans le Parlement européen habillé du drapeau ukrainien fait que on devance la volonté des Européens. Mais en tout état de cause, c'est elle qui impulse l'idée que cette contribution de solidarité temporaire et pas une taxe sur les super profits. Ouais. C'est très important parce que si vous employez le terme de taxe sur les super profits, il faut l'unanimité du Conseil européen en employant le terme de contribution. C'est la majorité qualifiée, mais au demeurant, elle ne maîtrise pas les débats nationaux à l'échelle des États membres. Une seule illustration, il y a eu un débat au Cortes, au Parlement espagnol cette semaine, où une discussion très vive entre le Premier ministre socialiste et le chef de l'opposition conservatrice qui explique que le Premier ministre socialiste présentant les grands groupes énergéticiens comme un peu comme les banques en 2008.
Ouais,
vous êtes vendu aux énergéticiens, il faut soumettre les énergéticiens. Donc, de ce point de vue-là, on sent que la Commission européenne ne maîtrise pas ces débats nationaux.
Très bien, allez, on passe maintenant à la deuxième rubrique, la question de la semaine. Et la question, elle est simple, hein, et je vais la poser à Wilfried Galland pour commencer. C'est la France va-t-elle vers la récession? C'est la question de la semaine. On a envie de connaître la réponse maintenant et pas plus tard, Wilfried. Alors, Bercy a donné ses prévisions de croissance pour 2023 à 1%. On sait qu'elles seront fausses. Ce qui est très drôle, c'est celle de la Banque de France qui, alors, ils ont dit entre plus 0,8 et moins 0,5. Alors, ça, je l'avais jamais vu, celle-là. Genre, on se mouille pas. Alors, moi, je vais vous demander de vous mouiller un peu.
Je pense qu'on va clairement vers un fort ralentissement économique, ça c'est très clair. L'aboutissement du chemin, on ne connaît pas.
C'est très sain, c'est intéressant.
Non.
Aussi.
Non, c'est très clair. Ouais. C'est très clair. Moi, je pense. Enfin, au contraire.
Il a dit très sain.
Vous avez dit très sain.
Je pense que ce n'est pas du tout très sain et je pense qu'on est allé.
On n'est pas d'accord.
Oui, tout à fait. On n'est pas du tout d'accord. Je pense que c'est une énorme erreur. Effectivement, on va effectivement vers ce ralentissement économique qui va arriver. Probablement vers une récession faible, probablement autour de zéro. Alors, est-ce que ce sera zéro plus, zéro moins? On n'en sait rien. Mais clairement, aujourd'hui, ce qu'on voit en France, c'est on a une remontée très forte, comme partout en Europe, comme partout dans le monde, des coûts de financement et globalement des coûts énergétiques. Donc, on a tous les coûts qui sont en train de remonter. Et on a une focalisation, et ça, c'est un tropisme qui est quand même très français, sur les ménages et la consommation. C'est-à-dire que dans les politiques publiques qui sont mises en place, on a l'impression que le pouvoir d'achat est devenu un droit constitutionnel, un des grands principes généraux du droit, comme on dit dans les bons vieux cours de droit administratif, qui doit être protégé à toute force. Et on oublie la partie production. Et ça m'inquiète un peu pour le moyen terme. C'est-à-dire que je pense qu'à court terme, on va peut-être aller vers une très légère récession, c'est pas très très grave. En revanche, on n'est pas en train véritablement de préparer l'avenir et surtout de préparer les esprits au fait que, comme on vient de le dire sur la partie énergétique, il faut faire un véritable recablage de l'économie française pour prendre en ligne de compte ces éléments sur l'énergie, le fait que l'approvisionnement énergétique, comme on a parlé tout à l'heure de Lehman Brothers, comme la liquidité bancaire était immédiate, la liquidité énergétique, on avait l'impression que c'était immédiat et illimité, ça n'est plus le cas. Donc, comme on a travaillé sur le système financier, il faut travailler sur le système de production, le système énergétique.
D'accord.
Et la France, aujourd'hui, le fait avec retard, focalise énormément sur la partie ménage plutôt que sur la partie entreprise. Et en fait, on n'a pas l'impression encore que la prise de conscience soit à la hauteur des enjeux.
Donc vous dites récession, mais récession 0 plus 0 moins.
Oui, tout à fait.
Mais ce que vous dites derrière sur les entreprises peut faire penser que vous croyez que la récession va durer.
Moi, ma véritable crainte, on aura l'occasion d'en reparler au cours de l'émission, c'est que la Banque Centrale Européenne aille trop loin dans sa remontée des taux.
Cet argument, je le trouve incroyable.
Tout à fait. Je suis prêt à le défendre jusqu'au bout.
On est à zéro avec des taux d'inflation à 9%. Alors, et même des projections de taux d'inflation à 2,5%. Ce qui était anormal, c'est le négatif, c'est zéro.
C'est ça qui est formidable chez vous, c'est que vous êtes toujours un petit peu dans le passé, c'est-à-dire qu'on n'est déjà plus à zéro.
Non,
on est à zéro.
Ben justement, c'est vous qui êtes dans le passé, parce que les taux d'intérêt reflètent la situation qu'on avait avant.
Non,
on est dans une crise, il faut remonter les taux,
Marc, le taux d'intérêt doit se caler au niveau neutre sur le taux de croissance potentiel. Au-delà, effectivement, on est dans un schéma restrictif. Non, jamais sur le taux d'inflation. Sur le taux de croissance potentiel. Et donc, effectivement, on va aller...
Donc,
aller
la mission des banques centrales, c'est pas de contrôler l'inflation.
Aller vers 1,5 à 2%, la mission des banques centrales, c'est la stabilité financière dont fait partie la stabilité des prix. C'est ça, la stabilité
La stabilité
exactement.
Des prix.
Exactement. Mais si vous
on créez... peut pas laisser des taux à 9%
Marc,
sans réagir.
Mais Marc, on n'a pas des taux à 9%. L'inflation est un indicateur retard. Les indicateurs que vous regardez sur l'inflation sont des indicateurs qui sont des indicateurs retard. Un des points centraux des différents membres de politique monétaire qu'on a pu écouter, en particulier à Jackson Hole, quand ils ont fait leur mea culpa, pas beaucoup, mais un tout petit peu, ils ont dit « on s'est trop focalisé », c'était Fred Harker qui l'a dit, « on s'est trop focalisé sur les indicateurs retard et passé sur les indicateurs avancés ». Tous les indicateurs avancés montrent que l'activité est en train de plonger et l'inflation est en train de baisser. Donc,
Baisser.
Oui, l'inflation est en train de baisser.
Mais on n'est pas retourné à zéro. D'accord, mais... non, on ne va pas continuer à vivre avec un monde à taux zéro ou un monde à taux négatif. On a vu ce que ça a donné.
Tout à fait.
On a vu tous les excès.
Mais
on paye le
la
prix
question, c'est
du
où est-ce qu'on va s'arrêter, Marc
passées.
La question, c'est pas aller à zéro. La question, c'est effectivement aller à 2%, ça me paraît normal. Aller à 4%, ça me paraît fou.
D'accord, on n'y est pas.
Voilà. Non, on n'y est pas. Donc, aller jusqu'à 2, ça ne me choquerait pas. Mais aller au-delà et aller jusqu'à 4...
On
n'est
même pas à 2.
Non.
On a encore du chemin.
Normal,
quand vous dites on va trop loin...
Donc, c'est qu'on aille au-delà l'année prochaine.
On est quand même un peu d'accord. Qu'est-ce que vous voyez du côté des entreprises? C'est intéressant ce que dit Wilfried. Parce que lui, il dit, attendez, on est focalisé sur les ménages, mais on ne regarde pas les entreprises. Et les entreprises, elles, sont en train de souffrir et on en parle peu.
Au niveau des grosses boîtes, il n'y a pas de problème. Quand vous regardez, par exemple, les prévisions de bénéfices sur l'ensemble de l'année des boîtes du CAC 40, on est encore à plus 30.
parce que comme elles sont dans le monde entier, il y a moins de problématiques. Par contre, sur les small et mid, ce qu'on a vu en termes de publication récemment, c'est que ça ralentit fortement. Hein. Quand vous prenez par exemple la santé animale...
Donc ce que dit Wilfried, ça, vous le ressentez-vous sur
le terrain, déjà ? Je le ressens. Quand vous voyez les résultats de la santé animale, il y a eu des publications ce matin, Virbac et Vetoquinol, ça ralentit alors que c'est un secteur défensif. Somfy dans les portes automatisées, ça ralentit. Orpea, bon, c'est une boîte à part. C'est un autre sujet, mais les résultats ne sont pas bons. Sujet. Donc on sent très bien que les résultats des mid, c'est beaucoup moins bon que prévu. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que... Je ne veux pas parler de bourse, c'est pour ça qu'il y a un écart énorme entre le CAC 40 et le CAC Small depuis le début d'année. Parce qu'on voit très bien que autant les boîtes du CAC 40 tiennent, autant sur les Small et Mid Caps, ça reste assez compliqué.
C'est très fragmenté, oui.
Vous êtes inquiet aussi sur les grosses boîtes, ou vous dites aussi, comme Eric, mon inquiétude que vous avez exprimée tout à l'heure, qui est intéressante, c'est les mid et les small.
Je pense que c'est largement le tissu économique profond qui souffre davantage. Et dans les grandes entreprises, la différence, c'est entre celles qui sont à risque sur la partie production. Donc effectivement, qui risque d'avoir des problématiques de rupture d'approvisionnement, soit énergétique, soit de rupture d'approvisionnement véritablement dans leur chaîne de production, et celles qui n'ont pas de problème. Quand vous avez juste un problème de top line, c'est important, c'est embêtant, mais c'est le rôle du management, et ils ont montré qu'ils étaient toujours capables de s'adapter. Quand vous avez progressivement un problème de simplement de choses à vendre, là ça commence à devenir compliqué, donc je pense qu'on va avoir un phénomène très fracturé, y compris au sein de l'économie française.
Il y a une autre chose que dit Wilfried, sur lequel, qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que justement, c'est un grand débat, on ne va pas le résoudre aujourd'hui. Toute cette transition, là, on l'a dit, hein, Ben Aouda l'a dit, ça y est, on y va, quoi. Mm-hmm. Ok, donc le sujet, vous militiez pour ça depuis des années. Mais est-ce que ça va créer de la croissance, ou est-ce que ça va créer de l'inflation, ou les deux, mon capitaine ?
Alors moi, je pense que la situation, c'est que on a déjà de l'inflation hors transition. On l'aurait eu même s'il n'y avait pas cette transition engagée. D'accord. Donc, je pense que le problème de l'inflation et de la croissance verte, moi, je vois pas le lien. Enfin, il y en a peut-être. J'arrête pas d'entendre sur vos antennes qu'il y a un lien.
Donc vous dites carrément, il n'y a pas d'inflation verte. Je parle pas de l'inflation actuelle.
Oui, mais pas spécialement. Non, pas spécialement. C'est un arbitrage. Et puis c'est.
Vous avez tous d'essayer de dire des trucs aberrants.
Non. Et ça détruit tellement de valeur de ne pas le faire que de toute façon il vaut mieux.
D'accord,
faire.
Ok, donc vous.
Ça, c'est la chose.
Et mais chose, croissance verte, oui ou non, ou
oui, moi je pense qu'il va y avoir de la croissance verte, et je pense, pour revenir à ce que disait Wilfried tout à l'heure, c'est que en fait le problème et la raison pour laquelle les États ne veulent pas qu'on s'engage dans un système de récession, c'est que on l'a vu en 2009, la dernière grosse récession vraiment marquée en Europe et en particulier en France, ça a généré un accroissement de la pauvreté qu'on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à le compenser. Même chose sur le chômage.
Les aides sociales explosent, les chèques, on les distribue tous les jours.
On n'a pas réussi à revenir, on commençait à revenir et on casse ça.
Mais vous ne répondez pas à ma question, parce que ma question, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir, est-ce que la transformation de l'Allemagne, notamment, qui va accélérer dans les énergies renouvelables, est-ce que ça va nous créer une croissance formidable,
hein ? C'est inflationniste. À court terme, ça coûte, c'est évident.
À court terme, ça coûte, vous dit-on ?
Non, moi, je ne crois pas.
Ok, allez, on passe au chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est à peu près, alors j'ai envie de dire à peu près, oui, parce que c'est 4%, c'est, on le sent, hein, le niveau que devrait auquel s'attend le marché sur les taux à court terme aux États-Unis, au-dessus de 4%. Cette prévision a été revue à la hausse après les chiffres d'inflation américains, on en parlera tout à l'heure, qui ont fait un peu paniquer les marchés. Avant de demander à nos économistes et nos gérants s'il faut s'habituer à des taux élevés, Ben Aouda, on a vu les États-Unis, la croissance qui est quand même ultra forte, hein, malgré des hausses de taux d'intérêt, le dollar plébiscité. On a l'impression que pour nous, les financiers, qui avons une vision au ras du sol, les grands gagnants de la guerre en Ukraine, c'est déjà les États-Unis. Nous, on a déjà statué sur l'issue de la guerre.
Alors, statuer sur l'issue de la guerre, je mets au défi quiconque d'y parvenir. Et encore une fois, je vais faire référence rapidement à cette interview du chef d'état-major de l'armée allemande qui sait à peu près donc, de quoi il parle. Il explique que certes, 60% des forces terrestres russes sont engagées dans cette guerre en Ukraine, mais que la Russie a encore tout son potentiel dans la marine, dans l'armée de l'air, et que toute contre-offensive à Kaliningrad, en Géorgie, en Moldavie, à la frontière avec la Finlande ou en mer Baltique reste possible. Et c'est lui qui le dit. Donc, l'idée que tout est plié parce que semaine après semaine...
Je disais tout est plié d'un point de vue de quoi qu'il se passe, de toute façon les Américains ont gagné, c'est ça que je suis en train de dire.
Peut-être.
C'est... Non, c'est pas votre sentiment.
Non, mais non, ce n'est pas que ce n'est pas mon sentiment, mais on sent une forme de lassitude vis-à-vis de lassitude intellectuelle vis-à-vis de cette guerre qui ne colle pas avec la réalité de ce qu'est une guerre de ce point de vue-là, qui implique encore une fois une des plus grandes puissances militaires au monde et la plus grande puissance nucléaire au monde. Donc de ce point de vue-là, il y a peut-être un emballement. Mais effectivement, ça donne par contraste aussi cette impression que le dernier et ultime refuge, ce sont les États-Unis, et ça se reflète effectivement
c'est inimaginable.
Voilà, dans cette
allocation
dans les répartitions des devises. Exactement. Où à un moment on a pu croire que l'euro, qui était à 20% dans les réserves des banques centrales, allait pouvoir tendre vers les 60% des États-Unis, et ça l'idée est maintenant absolument abandonné, dans la puissance de frappe industrielle américaine recouvrée et le
potentiel de l'industrie militaire
et qui est auto-centré et qui ne tient pas compte. C'est vraiment frappant de ce qui peut advenir de l'Union européenne dans les 2 ans qui viennent. Et ça, c'est assez marquant.
Éric Lewin, c'est normal.
C'est assez logique. Attendez, la guerre Ukraine-Russie a touché de plein fouet l'Europe. Et en plus, vous avez un différentiel de rendement nettement en faveur du dollar, puisque les Américains ont frappé beaucoup plus fort en termes de politique monétaire avant l'Europe.
Mais est-ce que ça ne va pas au-delà de ça? C'est-à-dire, est-ce que la puissance militaire, ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire la vassalisation, quelque part, un peu à nouveau de l'Europe, on a l'impression d'être le plan Marshall, quoi. Ils viennent nous sauver, ils nous donnent du GNL, enfin on a l'impression d'être après la guerre.
Il n'y a rien de nouveau, on savait très bien que l'Europe aurait beaucoup de difficultés et on voit très bien que l'argent est aux États-Unis. Regardez par exemple sur les flux depuis le début d'année, on a 30 semaines de décollecte sur les fonds européens, alors que ça collecte toujours aux États-Unis. Les États-Unis sont en plein emploi, nous on est toujours avec un taux de chômage qui est nettement plus important. Donc il y a toujours ce différentiel de croissance, de rendement et de politique monétaire avec un Jérôme Powell qui est beaucoup plus actif et beaucoup plus à la manœuvre que Christine Lagarde qui était quand même très en retard. Donc c'est tout à fait normal.
Oui, et ce qui est marquant, mettons de côté l'Europe, c'est la Chine. Lorsque vous voyez que le yuan a basculé au-dessus de 7, et faut revenir à la dernière fois où c'est arrivé, c'est lorsque l'administration de Trump en août 2019 a déclaré que la Chine était manipulée les devises. Or, la banque centrale chinoise envoie des signaux au marché pour dire ne passez pas ce seuil. Et donc, finalement, le dollar l'emporte face à tous, et y compris la deuxième économie mondiale.
C'est assez fascinant. Enfin, moi, je viens du marché d'échange et je trouve ça absolument incroyable. Revenons au taux d'intérêt. Je parlais des anticipations du marché au-dessus de 4%. C'est ce que vous voyez?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est cohérent.
Ça va monter encore plus haut ou pas?
On parle des États-Unis.
Je suis aux États-Unis.
Je pense que c'est totalement cohérent avec ce que nous annoncent les différents banquiers centraux américains, en particulier Jérôme Powell.
Et on parle des taux court terme.
Je pense que le sujet de Jérôme Powell, il est en fait de montrer sa détermination à toute force pour surtout ne pas avoir à faire une pause puis à repartir. Et en fait, ce qu'on oublie parfois, c'est que tout le monde nous dit, effectivement, le héros de Jérôme Powell, c'est Paul Volcker. Celui qui a monté les taux à 20,5% pour casser l'inflation américaine au début des années 80.
Et qui l'a cassé.
Ce qu'on oublie...
Au prix de récession.
Ce qu'on oublie, c'est que au bout de 6 mois de hausse de taux, Paul Volcker fait une pause. Fait une pause parce que le climat social américain est tellement violent qu'en fait, il dit il faut que j'arrête. Et donc, il repart ensuite pour de nouveau sa hausse de taux. Et dans ses interviews, après qu'il ait quitté le poste, il dit mon problème, c'est que j'ai fait une pause et donc j'ai été obligé d'aller jusqu'à 20% alors que je pensais aller à 12-13. Parce que si je n'allais pas jusqu'à 20%, alors c'était la crédibilité de la Banque centrale.
Donc ils ne font pas la même erreur, et donc ils vont taper très fort, plus vite possible, quitte à rebaisser derrière.
Quitte à rebaisser derrière.
C'est ce que les marchés anticipent déjà.
Mais avec la véritable interrogation, et je terminerai par là, qui est quel est le délai véritablement d'impact entre la hausse des coûts de financement et l'impact dans la politique économique.
On a déjà un début de réponse, excusez-moi, mais quand on voit les taux hypothécaires aux États-Unis qui ont passé la barre des 6%, et là, je peux vous dire, c'est immédiat. C'est-à-dire que l'arrêt des transactions sur l'immobilier, la chute des transactions aux États-Unis sur l'immobilier, il n'y a pas tant de latence.
Alors, c'est vrai sur cette partie du marché immobilier, c'est pas encore vrai aujourd'hui, par exemple, sur les rénovations et autres. Et donc, en fait, la question, c'est quand est-ce qu'on a le plein impact? Et donc, quand est-ce qu'on va avoir, effectivement, le moment où la Fed va dire je vais avoir besoin de prendre un petit pas de recul, je pense probablement que ça va être dans les 2-3 mois qui viennent, pour justement me dire, est-ce que l'impact, il est déjà là, ou est-ce que je dois attendre encore un peu ?
Juste par rapport à tout ce qui vient d'être dit, et je sais que vous aimez bien ça, c'est le retour à la réalité. Mmh. Et ce qui se passe en ce moment, c'est une forme de retour à la réalité. Ouais. On s'est battu pendant des années, tous les pays se sont battus pour avoir la devise le plus faible possible. Et là maintenant, à cause de l'inflation qui a enclenché le mouvement et le dollar qui a enclenché le mouvement, on se retrouve avec une hiérarchie qui est de nouveau correct, c'est-à-dire que vraiment les États qui avaient des difficultés et la zone euro avaient des difficultés, ça se retrouve dans le cours de sa devise, ça se retrouve bien sûr dans les émergents, c'est un désastre. Et alors les pays qui s'amusent avec leur devise à la laisser baisser se retrouvent maintenant dans une situation qui est extrêmement périlleuse. On voit la Chine et puis on voit le Japon aussi où le yen atteint des niveaux qui posent vraiment un réel problème maintenant. C'est-à-dire que soit ils agissent pour le redresser, ce qui commence à laisser penser, mais ça, qu'est-ce qui va se passer sur l'économie japonaise ? Et puis, si jamais le yen se remettait à flamber pour une raison ou pour une autre, les positions qui ont été prises vendeuses de yen, acheteuses de dollars, si elles se débouclent, ça va avoir effets de bord incroyables sur les marchés d'échange.
Et le yen entraîne le won sud-coréen.
En plus, c'est un problème. Et on va parler tout de suite des marchés dans la deuxième partie de l'émission. On se retrouve dans quelques instants. BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et heureusement qu'il y a Ben Aouda, parce que je ne vous explique pas ce que j'entends quand il y a la pause et que la caméra ne fonctionne pas. Ces trois-là, là, c'est... je ne sais pas qui a eu l'idée de les réunir, mais c'était pas une bonne idée. J'ai l'impression d'avoir une classe de camp.
Dans le heureusement... Show, bon,
heureusement, j'ai le premier de la classe, Ben Aouda. J'ai un des cancres, Eric Lewin, qui va nous parler des valeurs moyennes. J'ai Wilfried... Alors, ça y est, vous avez changé de spécialité.
Ouais,
vous avez...
je monte en gamme. Ah, j'essaie, mais j'ai du mal.
Wilfried Galland qui a dit un peu n'importe quoi. Il s'est excusé hein, dans la pause hein, pendant la première partie. Il m'a dit je suis désolé.
Même pas en mariage, je m'arrête. Même pas en rêve.
Je sais pas. Et Alain Pitou qui se dit que tous ces gars-là ne comprennent rien. On est dans la transition écologique, c'est une révolution. Et ils continuent à fonctionner avec leur vieux modèle. Allez, on parle des marchés. Bon, il a suffi d'un petit chiffre pour que ça dérape à nouveau. Ce chiffre, c'était l'inflation aux États-Unis. On vient d'en parler. On a eu la plus mauvaise performance mardi cette semaine sur les marchés américains, quand même depuis 20 ans. Sur une journée, c'était pas mal en termes de points, en termes de pourcentage. Chers amis, donc l'heure est grave. Je me retourne vers vous et je vous demande où vont les marchés, notamment le CAC 40, Eric Lewin. Et me dites pas, moi je regarde les entreprises. Il y a plein de gens qui me font ça. Ça, j'en peux plus. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de vision macro. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les fondamentaux de l'entreprise. Comme si les fondamentaux de l'entreprise, quand le macro décrochait, ne faisait pas décrocher le cours d'une valeur.
Écoutez, le jour de... Je crois que c'était la fête du travail. Non, c'était pas la fête du travail aux États-Unis. Il y a 15 jours, on était à 6030 sur le CAC 40. Puis on est remonté à 6004. Et là, on est revenu à 6030 points. Donc finalement, on est dans une espèce de zone entre 6000 et 6500 points. Et je pense qu'on va évoluer au gré des statistiques sur l'inflation, sur le salaire horaire, sur les ventes de détail. Franchement, moi, j'ai quand même le sentiment que l'essentiel des mauvaises nouvelles sont quand même intégrés dans les valorisations actuelles. En termes de valorisation, quand on regarde ça, si jamais on tient plus 30% cette année et quand même moins 4% sur les bénéfices des entreprises l'an prochain, à Paris, on vaut entre 10 et 12 fois les bénéfices. C'est quand même pas très cher. Donc ce que j'ai envie de vous dire par la marque, c'est que moi, je suis pas d'un pessimisme exacerbé là-dessus. Je considère qu'il y a des valeurs qui commencent à être intéressantes. Je vais vous donner une valeur, Stellantis, par exemple.
C'est pas du tout le moment, là.
Non, mais je veux juste vous parler
de
Stellantis.
Vous avez compris qu'il y a un ordre du jour.
Non, mais c'est pas le sujet, il y a la valeur du jour. Non, non, mais c'est pas une valeur du jour. Stellantis, par exemple, qui a la même marge, qui a la même rentabilité que Mercedes, c'est-à-dire 15% de rentabilité, se paye deux fois les bénéfices.
Très bien.
Deux fois les bénéfices, PER de 2. C'est-à-dire que mon feeling, c'est quand même qu'on a l'essentiel des mauvaises nouvelles qui sont largement intégrées dans les cours de bourse. Et je sais que vous adorez quand le Dow perd 830 points et que le Nasdaq perd 1000 points.
Ça vous dites ça à chaque fois ?
Non, parce qu'on est dans l'ère de la volatilité. Non, je répète pas la même chose. On est dans l'ère de la volatilité. Il faut s'habituer à des séances à plus 2, moins 2 en fonction des chiffres inflationnistes.
C'est toujours ce qu'on dit. Ray Dalio, le patron de Bridgewater Associates, un des plus grands fonds américains, fait un raisonnement qui est très simple. Qui est intéressant, qui consiste à dire... Non, il fait un raisonnement intéressant en deux parties. Non, c'est pas ça qui est intéressant dans son raisonnement. Il dit tout simplement, on était à zéro sur les taux d'intérêt américains, on passe à 2,5, les marchés ont perdu 20%, c'est normal. Maintenant, tout le monde anticipe que les taux vont rester à 2,5, La vraie question, c'est est-ce qu'ils vont rester à 2,5 parce que l'inflation va rester là ? Et dans ce cas-là, on est au bon prix. Lui, il a une autre vision, mais qui n'engage que lui, on s'en fout à la limite. Absolument. Il dit, lui, non, c'est pas 2,5 en fait les taux, ça va être 4,5. Le taux auquel on va à la fois de l'inflation et à la fois de taux d'intérêt. Et donc les marchés vont baisser de 20%. D'abord, est-ce que ce raisonnement est bon ? Et deux, quelle est votre anticipation ?
Alors, il est nécessairement partiel. On peut pas dire que effectivement ça ne dépend que de ça, mais effectivement c'est une très très large partie, je pense, de l'évolution des marchés. Ça a toujours été le niveau des taux d'intérêt, le niveau des coûts de financement, le niveau de liquidité globale sur les marchés. Dans l'histoire, les marchés font en général leur plus bas entre un mois et un mois et demi avant que on déclare que le pic des taux d'intérêt a été atteint. Aujourd'hui, c'est encore trop tôt, probablement. Aujourd'hui, c'est encore trop tôt. Donc, on se prépare, probablement, au fur et à mesure qu'on va avoir des mauvaises nouvelles sur les pressions inflationnistes qui se développent dans l'économie, sur les réactions des banquiers centraux, on se prépare probablement des séances un peu plus compliquées. En revanche, je pense que le plus bas aura lieu d'ici la fin de l'année. Dans le dernier trimestre, on aura le plus bas. Et j'espère que ce sera durant le mois d'octobre. Normalement, le mois d'octobre, historiquement, est un des meilleurs mois en bourse. Donc je pense qu'autour de la mi-octobre, d'ici un mois, on devrait avoir...
C'est le mois des cracks, mais ce n'est pas le plus mauvais mois.
Exactement.
On a l'impression que c'est un mauvais mois, mais en fait, quand on fait la moyenne,
c'est septembre. Et donc, je pense qu'effectivement, on va avoir une vraie opportunité
d'entrée.
Il faut jamais oublier non plus que
vous nous donnerez la date en octobre.
Surtout le niveau d'entrée. Je
la donnerai une fois qu'elle sera arrivée, absolument.
Le niveau d'entrée. Alain Pitot.
Encore une fois, on a eu une période complètement historique avec des taux très bas, la liquidité, etc. Et là, on se retrouve dans un marché plus normal. Et ce qui s'est passé sur le chiffre d'inflation et la séquence était assez logique. C'est-à-dire qu'on a eu la Fed qui a martelé qu'elle voulait lutter contre l'inflation il y a quelques semaines. Ça menait à quoi ? Ça menait à une hausse du dollar. La hausse du dollar, c'est un ralentissement des échanges internationaux. C'est beaucoup de stress côté investisseurs, entreprises, parce qu'il y a plus de difficultés à investir à l'étranger. Donc tout ça, c'était logique que les marchés le traduisent. Donc on se retrouve comme ça avec cette logique de comportement. Donc c'est violent parce que les marchés sont.
Mais votre anticipation ?
Ouais, c'est que tant que. Moi, je pense que.
Je veux bien que vous me racontiez ce que vous voulez sur le passé.
D'accord, ok. Alors, mon anticipation,
pour
c'est.
Du temps.
Pour moi, c'est que le point bas sera quand la Fed commencera à changer de discours. Et j'ai peur que ça soit un petit peu après ce que dit Wilfried. Donc un plus bas, il peut être... Alors les moins 20%, c'est évoqué tout à l'heure, ça me paraît peut-être un peu beaucoup, parce que le dollar est quand même très suracheté, les taux sur les marchés obligataires, on voit aussi qu'on commence à...
Vous trouvez le dollar très suracheté ?
Ah bah ça commence, oui, ça fait quand même une période...
La stabilité monétaire, ça va être clé. Faut pas oublier que le 15 octobre, on a un G20 Finance. Et l'espoir quand même, c'est qu'on ait un peu comme le G20 Finance de Shanghai en février 2016, qu'on ait une espèce d'accord de Bali, puisqu'il a lieu à Bali, sur les monnaies, qui permettent déjà d'avoir ce socle qui permettent de se restabiliser, comme le disait Ben Aouda, le fait que le yuan ait franchi 7 est un signal extrêmement important.
Et l'autre point qui est important, c'est que on voit là, ils sont tous en train de commencer à bouger leur taux pour commencer à défendre leur devise. Les Anglais ont évoqué ce matin, etc. Ils n'y arriveront pas. Donc la seule solution, c'est quelque chose de coordonné.
Et pour monter à 1985, pour voir le cours de change qu'on a sur la livre sterling contre le dollar.
Donc je pense que à un moment donné, ça peut correspondre au moment où la Fed commence à changer un peu de discours et envoie un message un peu plus positif sur les devises.
Ben Aouda, je sais que vous n'aimez pas qu'on vous interroge sur les marchés, je sais que c'est pas votre sujet.
Sur le Royaume-Uni.
Sur le Royaume-Uni, mais aussi sur quand vous regardez ça avec votre regard et votre vision un peu géopolitique, est-ce que vous vous dites, finalement, les marchés, il ne s'agit pas de dire c'est au bon niveau ou autre, mais vous voyez les évolutions sur le change, vous avez parlé du yuan, est-ce que ça vous semble correspondre à une réalité géopolitique et macroéconomique ?
Ce qui est frappant, c'est une forme de distance, pour ne pas dire de rupture, entre ce bouillonnement géopolitique dans les discours et les flux, les réalités des flux. Jeudi, la FDD, qui est une fondation conservatrice américaine, qui a ses entrées à peu près partout, au Pentagone, au Congrès, etc., publie un rapport extrêmement instructif sur les flux de capitaux chinois dans le capital investissement et le capital risque de la Silicon Valley. Et ça n'a jamais été aussi élevé. Les flux n'ont jamais été aussi importants. Comme si, somme toute, Joe Biden, Donald Trump, Xi Jinping pouvaient raconter, enfin, plutôt les deux autres. raconter ce qu'il voulait, ces flux continuaient d'augmenter, en contraste saisissant avec, somme toute, tout ce qui peut se dire dans les cercles internationaux. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement une distance par rapport au discours politique, finalement.
Très intéressant. Allez, on passe à la question d'argent du semestre, une nouvelle rubrique aussi. Bon, j'ai une question très simple, je vais me tourner vers Eric Lewin d'abord. Que faire de son portefeuille action quand on est en pleine tourmente comme cette année? Qu'est-ce qu'on fait?
Ben, si on a du cash, si vous avez un portefeuille investi à 100%, ben, vous conservez. Maintenant, moi,
Déjà, arrêtons là. Si on a un portefeuille investi à 100%, on conserve.
On conserve, évidemment. Mais on va pas vendre avec 15% de baisse depuis le début de l'année avec des boîtes du CAC 40 pour certaines, comme les Dassault, les ST, qui perdent entre 30 et 35%.
On se disait ça à moins 15. On se dit ça à moins 25, ben oui, vous savez, jusqu'à présent tout va bien et puis à la fin
on
s'écrase contre
On était quand même à 6004 lundi soir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça va très vite. On est retourné dans l'ère de la forte volatilité, ce qui veut dire que vous pouvez gagner très facilement 10% sur une valeur et les reperdre aussi.
Mais d'accord, donc vous dites, vous...
Voilà, moi je pense qu'il faut un tiers de défensive, un tiers de cyclique et un tiers de valeur de croissance. Comme on est tous un petit peu perdus sur la récession, puisque vous parliez de la Banque de France qui a quand même une fourchette de prévision de croissance complètement démentielle, moi je pense qu'il faut un tiers. Comme ça, on peut être sécure parce qu'on voit très bien que même les rotations sectorielles vont très très vite. La value, ça marche pendant 8 jours, puis après c'est la growth. Donc je pense que ce panachage un tiers va permettre d'éviter trop d'à-coups sur les marchés financiers. Mais encore une fois, moi je suis pas super super négatif, mais okay. je tiens à le redire parce que
vous pouvez, pendant que j'interroge Wilfried et Alain, vous pouvez réfléchir à juste illustrer une valeur de croissance, une valeur défensive et une.
Je vais mettre du temps, mais je vais trouver.
Wilfried,
moi je pense qu'il y a il y a deux éléments qui me paraissent quand même très importants pour prendre des décisions aujourd'hui. Le premier élément, c'est de se rendre compte qu'il y a un élément qui a changé profondément sur les marchés, et je pense pour le mieux, c'est qu'on a le retour de la rentabilité. On a le retour sur les taux, le fait qu'on peut avoir dans les produits de taux véritablement de la rentabilité.
La fin du There is no alternative.
Exactement. Moi c'est ce
la fin du TINA.
C'est ce qu'appelle le TARA, c'est There are reasonable alternatives. Il y a des alternatives raisonnables aujourd'hui. Ouais. Et donc, ça permet d'avoir.
Parce que ça passera pas le
temps. Ça permet.
Médiatiquement, ça passe.
Ça permet aujourd'hui.
Non, mais c'est pour le trouver quand même.
Mais
il faut le féliciter quand même.
Mais c'est pour ça que
c'est quand même l'intellectuel de la finance, Marc.
Mais ça permet aujourd'hui de se dire, ça permet aujourd'hui de se dire que il y a par exemple dans des produits de taux de quoi attendre aujourd'hui dans des obligations de qualité européenne, avoir 3% de rendement, c'est tout à fait possible. Des obligations convertibles, jusqu'à présent il y avait aucun.
Ça c'est très bien, mais si vous répondez pas à ma question, c'est qu'est-ce que je fais d'un portefeuille action en pleine tourmente? J'ai compris, c'est un point très important.
Ouais, tout à fait. Sur le portefeuille action. Il faut l'analyser avec, je trouve, deux angles pour décider ce qu'on garde, ce qu'on vend et ce qu'on rachète. Le premier, c'est effectivement, mais ça tout le monde le raconte, c'est la qualité du bilan, avoir des effets de levier assez faibles.
Les fondamentaux de l'entreprise.
Les fondamentaux. Et le deuxième, c'est quelque chose que je développe vraiment parce que je pense que c'est très important, c'est analyser sous le biais des risques de production. Je le redis. D'accord. Les entreprises qui ont des risques à la fois dans leur approvisionnement et dans leur énergétique et dans leur cycle global de production sont celles qui sont, à mon avis, le plus à risque dans les semaines et dans les mois.
Alain Pitou, qu'est-ce qu'on fait quand on a un portefeuille, on a son portefeuille et tout est déglingué?
Alors, bon, si tout est déglingué, je pense qu'il y a un problème, c'est que vous n'avez pas écouté les émissions précédentes, c'est un peu dommage.
Mais, alors, malheureusement.
Mais pas que.
Mais pas que.
Non, mais alors, moi, je me concentre sur zone euro et US. Sur la partie action, quand même sur la partie oblique, c'est quand même important.
Très important. Non, mais c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a à nouveau une alternative.
C'est ça, il y a une nouvelle alternative. Et puis il y a aussi un peu de sécurité à avoir en tête.
Évidemment.
C'est-à-dire un peu de dollars, un peu de francs suisses, ça mange pas de pain. Et pour la partie obligataire, il y a plein de produits en ce moment qui sont lancés par toutes les maisons de gestion sur des produits à échéance. Et je trouve que c'est pas mal de construire des portefeuilles tôt là-dessus. Et donc sur la partie action, moi je privilégie la croissance parce que ça devient plus rare et donc ça va. Quand ça va repartir, c'est ça qui va repartir en premier. Donc, privilégier plutôt sur les US et sur la zone euro les valeurs de croissance qu'Eric va citer dans quelques instants. Avec, pour les gens qui veulent faire que des fonds, viser sur une partie du portefeuille des thématiques. Parce que je pense que ces thématiques sont un peu à l'abri des problèmes un peu plus macro. Je pense à des thématiques sur l'énergie renouvelable, les transports de demain.
On est tellement surpris.
Sur l'eau, etc. Et juste un point, c'est le filtre évoqué par Wilfried, c'est un filtre de gens qui ont des problèmes d'endettement sur leur bilan et un filtre sur les problèmes de production, c'est-à-dire que ceux qui sont énergie riches, ça, il faut faire attention.
Benaouda.
J'ai une interrogation, et là je me tourne vers les spécialistes. Lorsque vous voyez le découplage en cours qui affecte les valeurs les plus importantes à l'échelle euro-occidentale, on peut se poser des questions. Cette semaine, on a appris que les grands hôpitaux de Pékin, de Shanghai, de Canton, etc., ont reçu comme instruction de ne plus recourir aux équipements médicaux produits par General Electric, Philips et Siemens. Donc, trois grands noms qu'absolument tout le monde connaît, en disant maintenant, il faut se tourner vers la production nationale pour les IRM, les endoscopes, etc. Est-ce que ces entreprises-là sont prises cette thématique-là est prise suffisamment en compte dans l'évaluation? C'est une question qui peut se poser.
Bah, la réponse, je peux vous la donner, on n'a pas le temps de faire un débat, mais moi, à mon avis, pas du tout. Pas du tout pour l'instant. Et c'est une thématique qui est très importante, et je pense qu'on va en parler. Qu'est-ce qu'on... trois illustrations de ce
Trois illustrations. Valeur de croissance d'Asso Systèmes, éditeur de logiciels, très bien positionné sur l'usine 3.0, marge de 35%. Valeur défensive, soit Sanofi, mais ils ont un problème de blockbuster, plutôt Orange. Et Value, soit Stellantis, soit Saint-Gobain. Les cours de Saint-Gobain, price une récession de 5%, qu'on n'aura quand même pas l'année prochaine en Europe.
Quel est le mot de la semaine pour vous, Benaouda?
République. Alors, on est dans les funérailles de la reine Elisabeth. Et c'est à ce moment-là que Antigua et Barbuda, État de la Caraïbe, 100 000 habitants, a décidé d'annoncer qu'ils allaient faire un référendum pour passer à la République. Il faut savoir que 15 États sont encore comme souverains, comme chef de l'État, le roi Charles III, à travers le monde, l'Australie, le Canada, mais aussi la Jamaïque, Antigua et Barbuda. Et qu'est-ce que cela dit, ça, cette volonté de passer à la République? C'est que ça accrédite l'idée, notamment en Chine, en Russie, en Inde, etc., que le rétrécissement du Royaume-Uni ne fait que commencer et que l'usage du Commonwealth comme instrument d'influence géopolitique, mais aussi économique et financier, ne fait maintenant partie de l'histoire, et peut-être que ça viendra de ces pays-là, comme Belize, Antigua, Barbuda. Les Barbades sont devenus une république récemment, et de ce point de vue-là, c'est aussi un signal tout à fait négatif pour le Royaume-Uni.
Ah, vous êtes très sombre sur le Royaume-Uni.
Non, alors je me réfère juste à une réflexion d'un stratégiste cette semaine. Lorsque vous avez un double déficit jumeau, déficit courant et déficit public à 10%, on ne voit ça que dans les économies en développement. Or, vous êtes le Royaume-Uni, ce n'est pas une économie en développement. Ouais,
vous les avez massacrés définitivement.
Non, c'est un constat.
Eric Ewing,
moi je donne un chiffre, allez. Non pas un mot. 45%, je deviens le fils spirituel d'Alain Pitou.
Allez.
En fait, c'est la directive européenne qui dit que la part des électricités issues du renouvelable en 2030 doit atteindre 45%. La problématique, c'est qu'on est à 22% simplement en Europe. Et contrairement à ce que dit Alain, moi je pense que c'est très inflationniste, parce que j'ai beaucoup lu cette semaine. Et par exemple, une centrale à éolienne consomme 7 fois plus de cuivre qu'une centrale au gaz. Donc moi je pense qu'on va, avec cette transition énergétique voulue par tous, vers beaucoup plus d'inflation.
Oui, Fred Galland.
Pour moi, le mot de la semaine, c'est contre-offensive. Je pense que ce qui s'est passé en Ukraine avec ce que les spécialistes militaires ont appelé une attaque de dislocation du front est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé et qui peut avoir des conséquences très importantes, y compris sur la partie économique, parce que ça veut dire que le contrat entre Vladimir Poutine et son peuple, qui est « vous êtes une grande puissance mais pauvre » ou « vous êtes pauvre mais vous êtes une grande puissance », peut être mis en cause. Justement parce que le côté grande puissance est remis en cause par cette contre-offensive.
Benaouda vous dit non.
Pas de conclusion hâtive, mais ça veut dire que en fait la situation qu'on pensait justement figée ne l'est probablement pas, et ça peut tomber dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut être vers le mieux, mais ça peut aussi être vers le pire. Et je pense que c'est véritablement quelque chose de très important qui s'est passé cette semaine, qu'il va falloir suivre. On sait que en Russie, quand ça se déstabilise, ça peut être comme en 91 plutôt vers le mieux, mais ça peut être comme en 1917, plutôt vers le pire, donc attention.
Waouh! Alors, vous avez bien plombé l'ambiance, là. J'ose même pas vous demander ce que.
Alors. Moi, le mot de la semaine, le mot du mois, le mot du trimestre, le mot de l'année, c'est des plans, hein, des plans. Tout le monde fait des plans. Il y a des plans sans arrêt. Alors, les derniers en date, il y en a quelques-uns comme ça, c'est 150 milliards en Angleterre. C'est, il y a trois semaines, un plan anti-inflation pro-investissement vert de Biden à coût de 360 milliards. On a des 40 milliards par-ci. On a 8 milliards pour l'agriculteur en Allemagne, etc. Enfin, on a plein de plans en tous les sens. Et moi, mon point là-dessus, c'est de se dire que ça devient de plus en plus étatisé, toutes ces idées d'investissement, on drive, on pilote. Donc pour les gérants et pour les investisseurs, ça devient extrêmement compliqué parce qu'il y a de la politique. Donc investir sur de la politique, c'est jamais très très simple. Et en même temps, c'est hyper important.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que nous, en France, les gérants français ont un coup d'avance parce que nous, on vit
ça. On sait faire ça, oui.
Probablement, mais on a vécu avec ça depuis.
Mais il y a un problème d'échelle maintenant, c'est-à-dire que ça devient quelque chose de.
C'est un game changer.
Je trouve que c'est un game changer et le retour en arrière me paraît assez difficile.
Allez, on passe au. Je ne sais même plus si c'est un top 3 ou un flop 3. Le top 3 des gérants, c'est la cata évidemment, mais il y a quand même quelques perfs qui s'en sortent un peu, toujours négatives. Hein. J'ai aucune perf positive, je ne les ai pas gardées dans ma poche. Pierre Chang est en baisse de 4,1%, c'est le numéro 1. Jérôme Fauvel de 5,3%. Frédéric Rozier est en baisse de 7%. Éric, on va reprendre votre portefeuille.
Je ne suis pas très fier quand même.
C'est pas grave, il faut assumer.
Faut le dire.
Donc on a du Atos, qu'est-ce qu'on fait ?
Joker, franchement, je ne sais plus, je suis complètement perdu avec cette.
Ah ben non, vous l'avez conseillé.
Il va y avoir OP à 30, OP à 25, OP
à 20. Vous l'avez conseillé.
Je ne vais pas la vendre à 10, elle a dû perdre 70%.
Elle est à 8,8 même. Reward Media.
On garde absolument.
Elis.
On garde.
Fnac Darty.
On garde.
Genoway.
On garde.
Clara Nova.
On garde.
L'Oréal.
On garde.
The Blockchain Group.
On garde.
Alten.
On garde.
Twax.
On garde.
Dassault Systèmes, vous êtes cohérent avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on achète ?
On achète freelance.com. qui est une plateforme qui met en relation les indépendants et les boîtes.
Je croyais que vous étiez monté en taille.
Ça faut 335 millions de capi quand même. C'est une boîte, tout le monde ricane, qui va quand même faire 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. 800 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, qui devrait faire 1 milliard en 2025, qui est rentable. Il y a une marge d'exploitation entre 4 et 5%, une marge nette entre 2 et 3%. Et l'intérêt de cette boîte, c'est que, un, l'actionnaire qui a 60% n'a pas la volonté de rester ad vitam aeternam. Et deuxièmement, quand vous faites la comparaison avec Fiverr, qui est le gros concurrent américain, Fiverr fait deux fois moins de chiffre d'affaires et perd deux fois plus d'argent.
Mais on est aux États-Unis.
Mais vaut quatre fois plus cher.
Ouais, mais enfin, c'est comparaison, elle ne marche jamais.
Si, vous verrez.
Non, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec vous sur le choix.
Mais
de comparer les valorisations aux États-Unis.
Entre une valeur qui vaut 1,2 milliard.
C'est grotesque.
Entre une valeur qui vaut 1,2 milliard.
C'est pathétique.
Et qui perd 200 millions et une valeur qui vaut 300 millions et qui va gagner 40 millions cette année, je crois qu'il y a quand même.
Non.
C'est peut-être grotesque ce que je dis, mais là, l'écart est tellement abyssal.
Je dis de comparer aux valorisations américaines.
Mais l'écart est tellement abyssal que je pense que freelance.com, ça fait un beau petit dossier de croissance. En plus, pas très cher, puisque en VE sur CA, ça vaut, mon cher Marc, 0,35.
C'est une lueur d'espoir dans cette émission.
Ouais, c'est super.
Parce que vous êtes tous des pessimistes, des récessions, taux, etc.
Exactement.
Il faut que je donne des motifs d'espoir.
Voilà.
Et quelle est leur politique ESG ?
Écoutez, franchement, là-dessus, je pensais peut-être le président arrêter les jets privés.
Vous avez vu ça ? Alors, c'est bien ou pas ?
C'est pas mal.
Et le mec, il ne sait pas répondre.
C'est essentiel
dans la valorisation de la boîte. Allez, Alain Pitou, on reprend votre portefeuille. Infineon.
Oh, je garde.
Saint-Gobain, Air Liquide, Sika. First Solar, bon, il y a quand même une valeur positive, 51% depuis le début de l'année.
Alors celle-là, je la vends. C'est pas tellement où je suis pas.
Parce que c'est la seule qui a monté.
Voilà, non, c'est pas ça. Donc, la dernière fois, je l'ai pas fait dans le cadre du.
Ah, vous avez bien fait d'ailleurs.
Non, la dernière fois, je l'ai pas fait sur Eramet et je regrette parce que c'était à 140 quand la dernière fois que je suis.
Et c'est à 85.
Ça a pris un léger tir.
Fortinet,
on garde.
Eramet,
on garde.
Norsk Hydro,
on garde aussi.
Evoca Water Technology.
Yes, on garde.
Et Simrise. Qu'est-ce qu'on achète ?
Alors, on achète Thermo Fisher, une société américaine cotée au Nasdaq. Alors, c'est un peu plus gros que celle d'Eric, c'est 40 milliards de capi. Ils travaillent dans le domaine de la santé.
J'ai senti une pointe de mépris.
Non, c'est pas
mépris.
Non.
Bah, et ça m'a dérangé. Non. J'ai senti que vous cherchez à le folkloriser. Vous savez qu'il aime pas ça. Il aime pas ça.
Non, mais j'aime tout de la part d'Alain, j'ai aucun problème. Alain est un ami avec qui je déjeune une fois par mois.
Non, parce qu'il dit
non,
un tout petit peu plus gros, 40 milliards.
Non, mais parce qu'il
n'a
pas aimé que je parle de l'inflation via la transition énergétique.
Oui, c'est
subliminal.
Donc, si je peux parler des valeurs, si ça vous gêne pas. Donc, c'est des gens qui opèrent dans le B2B médical et pharmaceutique. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vendent des instruments.
Qu'est-ce qu'ils font ?
Ils vendent des instruments et des consommables pour la recherche biologique et médicale, par exemple.
Mais il lit ses fiches en plus.
Il a bossé au moins.
Tu la connaissais, Thermo Fisher ?
Ouais, de nom.
C'est vrai ?
Bon. Ouais.
Et alors, pour revenir sur le point de la croissance, donc c'est des gens qui font quand même un petit 17% de croissance de chiffre d'affaires sur les trois dernières années, 38% de croissance du résultat, 22% de marge. qui ont fait beaucoup d'acquisitions cette année, ce qui a un peu pesé sur le cours. Ils ont quand même acheté pour 24 milliards de boîtes.
Quand vous dites ça a pesé sur le cours, c'est une valeur qui a pris, qui a chuté.
Non, elle a chuté. Bon, elle a fait un peu mieux que le Nasdaq. Elle a fait moins 15 à hier. Et une bonne note ESG, parce qu'il y a quand même un sujet sur ce genre de boîte. Hein. Ils travaillent aussi sur les, ils développent des solutions pour les nanotechnologies en tout sens. Donc, il y a un petit problème de gouvernance de l'entreprise. Il faut faire attention. Il y a un problème d'éthique aussi quand on travaille sur ce genre de sujet. Et ils sont assez concernés par le problème. Voilà.
Aujourd'hui, quand on regarde les notes ESG des boîtes cotées à Paris, il faut les regarder où on n'est pas encore arrivé à un vrai système de notation et c'est de la flûte.
Moi, je pense que c'est les notes ESG, c'est un système pour éliminer les mauvais. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de classer les entreprises les unes par rapport aux autres.
Si l'adaptait par exemple à l'émission, il n'y aurait qu'un invité aujourd'hui.
Voilà, c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Non. Par contre, là où moi je crois vraiment au système, à l'approche de finance durable, c'est sur les thématiques que j'évoquais tout à l'heure. Parce que là, on se retrouve dans quelque chose qui est pur, c'est-à-dire qui fait du bien au monde de demain. Alors que les notes ESG.
Je comprends pas ce que vous dites, là.
Pardon ?
Qui fait du bien au monde.
Ah bah oui, c'est-à-dire que quand on parle du solaire, quand on parle du transport de demain, quand on parle.
Les jets privés, c'est fini.
De l'eau, etc. Oui, ça, parlons-en. Et je pense que c'est efficace de regarder les entreprises sous cette.
On continuera à en parler hors plateau autour de votre moto.
Moto électrique, bien sûr.
Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire. Enfin, elle sera exceptionnelle. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir ou revoir en replay et podcast sur RMC, BFM Play et toutes les plateformes de podcast. Et les podcasts cartonnent. Mmh.